Guillaume.
Ouais.
Charline.
Ouais.
Elle s'est collée hier ou quoi?
Bah non, hier c'était un soir de la semaine, elle a un métier, elle.
Bah alors pourquoi elle carbure à l'aspirine effervescente depuis ce matin?
Bah, je sais pas.
Je vous entends, je suis pas morte, je suis dépitée, c'est tout. Je réécoute l'émission d'hier.
Bah elle était super l'émission d'hier. Bah,
sur le moment, oui, ça m'a paru super. Bah. Puis là, je suis moins sûre d'un coup.
Ah bon? Mais alors, enfin, pourquoi?
Mais non, bah c'est l'invité, je ne comprends pas. Sur le moment, je le suivais très très bien.
Ouais.
Puis là, en deuxième écoute, ça me fait comme si j'avais bu à la paille une baignoire de vodka.
Ah ouais, vive ma vie de Juliette Arnaud, quoi.
Voilà, bah écoute.
Alors, c'était des comment ça s'appelle? Des extrêmes droites.
Comment ça s'appelle? Des barbouzes qui étaient là, qui avaient tout acheté au dommage.
On se perd.
Ouais, c'était très long.
Ouais.
Pas bon. Ouais, mais alors attends, mais je piche pas parce que tu disais que justement hier t'avais compris toi.
Ouais, mais enfin je mens, voilà. Ouais, je mens en allemand, voilà. Je défends mon invité qui par ailleurs est un acteur formidable.
Ah bah alors attends, parce qu'en tant que Robespierre de cette émission, je me permets de te dire que je trouve ça très moyen comme
ouais,
pratique.
Je sais bien, je sais, j'ai honte.
Nous devons aux auditeurs de l'objectivité avant toute chose, de l'authenticité,
oui,
je te rappelle.
Ça va, je sais, je me sens mal.
Bah oui, mais c'est pas bien.
Oh, ça va, Guillaume, c'est pas comme si hier t'avais brillé de mille feux non
Pardon,
plus.
Pardon, c'est moi que tu traites de vendu, espèce dévié.
Non, alors vendu, certes pas, mais enfin pour poser des questions que personne comprend, là il y a du monde.
Votre ancêtre est un silex.
Ah, voilà.
Merde. Ah, j'ai dit ça moi?
Oui, bah du coup là, j'ai moins honte. Hein, oui.
Alors je me disais, peut-être le mieux, c'est que je prenne les commandes de l'émission d'aujourd'hui.
Ah bah non, non, quand même pas, faut pas exagérer. Non. Bah,
non. On n'en est pas là quand même, hein. Merci Julien.
Bah non, ça va, les idées à la con, merci. Non.
Oh,
bon,
mais
oh.
Ferme-la toi avec ton ancêtre qui a un silex.
Ouais, bah ça existe, les ancêtres en silex, d'accord? Ma mamie, par exemple, elle est en granit. Parce que les gens, ils disent ça, ils disent, elle est dure, c'est du granit, comme la pierre.
Bah, ouais. Ferme-la quand même. Salut à toi, la France Inter.
Et
salut à toi, l'auditeur. Salut à toi, le start-upper. Salut à toi, le fucking trader. Et voici les trois informations qui vont effectuer un rebond sur le marché de la blague. La radicalité est de retour pour combattre le système. Cette radicalité qui occupe l'espace public, le bloque, parfois le détruit. Cette génération radicale est nommée ultra-gauche ou ultra-droite. Et son langage est tout aussi radical.
D'ailleurs, comme le disait le général von Himmler, il ne s'agit pas d'exterminer tous les étrangers, bien
non,
sûr.
Non, non,
il avait composé, mais tout de même, en zigouiller une bonne partie, ça ne l'a pas.
Les actrices noires rappellent que noir n'est pas un métier dans un livre manifeste et une montée des marches qui initie un mouvement pour que le cinéma ne leur offre pas que des rôles subalternes.
Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir,
mais non.
Le ministre de l'Éducation nationale remet la dictée à l'honneur. Il a signé une circulaire qui recommande sa pratique quotidienne dans les petites classes. Elle est pourtant parfois considérée comme outre-formatrice, castratrice.
Monsieur, monsieur, il y a deux P à l'appel.
Appel, ça prend deux P? T'es sûr?
Castratrice pour les professeurs également. Elle est là une orthographe irréprochable et c'est pour ça que ça nous change d'Alex Vizorek. Je balance. Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, devinez quoi? C'est une équipe.
C'est une belle équipe.
Eh ben
aujourd'hui.
Voilà, c'est une équipe. Ouais, ouais,
ouais. J'ai douté comme il y a Clara. Je me suis dit,
oui,
pas une belle équipe.
Ben si, non, c'est d'accord. Une belle équipe et on va commencer donc avec quelqu'un. Ayam disait, la vie est un film où tout le monde a un rôle à jouer. Le problème, c'est qu'il y a trop de séries B. Alors moi, je dis certes, mais pas quand le film de la vie est expliqué par Thomas Bideguin.
Bonjour Juliette, merci à tous. Et bonjour, voilà, je viens vous parler aujourd'hui du public.
En toute
Comme
simplicité.
Ça, en toute simplicité, ils sont là, parlons d'eux.
Parfait, parfait. Ben, ça suivra avec celui qui vient d'être embauché dans le nouveau casting d'Avengers.
Ah oui,
oui, oui, si. Son super pouvoir, son aptitude à mettre en roi n'importe qui, y compris Gérard Darroussin et le Dalai Lama. Guillaume.
Bonjour Juliette, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler fraternité. Aujourd'hui, je suis allé voir les Français pour en savoir un petit peu plus sur le concept.
Ben, c'est quand on s'entend entre nous et pour l'instant, c'est mal barré.
Mais c'est pas mal résumé, je trouve.
Et enfin, celle pour qui, et ça c'est Alex, mon maître, qui me laisse celle pour qui Michel Sardou a inventé le concept de l'amalgame de l'autorité et du charme. Clara Dupont-Moineau.
Bonsoir, bonsoir Juliette, bonsoir à tous. Même quand Vizorek n'est pas là, il est là. Je vais vous parler du livre de notre invité sur lequel je garde le mystère pour l'instant.
Très bien, et voici donc résumé le parcours de notre hôte. Après des études de droit et d'économie sociale, vous publiez votre premier roman, Chronique des sept misères. En 92, vous obtenez le prix Goncourt pour Texaco, un roman fleuve présentant la vie de Martiniquais sur trois générations. Puis vous sortez Une enfance créole, le premier volet d'un triptyque autobiographique. On vous doit aussi notamment Écrire en pays dominé et L'empreinte à Crusoe, où vous revisitez le personnage de Robinson. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Patrick Chamoiseau.
Mais oui,
Cham, cham, cham,
On avait dit non.
Oh, le niveau.
On avait dit non.
C'est Clara Dupont-Moretti.
Non, c'est faux.
Excusez-nous, Patrick Chamoiseau. Excusez-nous, c'est très gênant.
C'est très, très, très gênant. Patrick Chamoiseau, quand même, un auteur majeur, mais arrêtez, qu'on peut retrouver au Festival Saint-Malo, étonnant voyageur. Vous prenez demain le train pour Saint-Malo. Festival qui se tiendra du 19 au 21 mai. Et cette première question, le Festival étonnant voyageur, comme l'explique d'ailleurs son créateur dans Télérama cette semaine, c'est un festival qui permet un peu de décentrer la métropole française comme cœur de la meule de la littérature francophone.
Oui, parce qu'à l'origine, ce festival était centré autour du voyage, donc les écrivains voyageurs, ce qui était une manière pour la conscience occidentale de découvrir un peu les espaces exotiques. Et puis, progressivement, la complexité s'est mise de la partie. Et aujourd'hui, c'est un festival qui tourne autour de la notion de littérature au monde, c'est-à-dire une littérature qui ne reflète pas simplement des réalités nationales ou des réalités linguistiques nationales, mais qui rentre véritablement dans les phénomènes de fluidité linguistique, phénotypique, culturelle, enfin bon, le tout monde actuel tel que Glissant l'aurait défini.
Et donc, c'est l'occasion pour tous ces territoires qui sont éclatés, parce que rappelons que la francophonie, c'est extrêmement large, de pouvoir se réunir à un endroit et de quoi, de s'influencer, de s'interpénétrer, si je puis dire. Quelles sont vos attentes ?
La littérature est rentrée dans un nouveau degré de complexité. C'est vrai qu'avant, on avait tendance à classer les écrivains dans, moi j'ai connu l'anthologie de langue française.
La Gare des Michards.
Anthologie de littérature française. Oui. J'ai beaucoup rêvé, lorsque j'avais 14 ans, je lisais l'anthologie négo-africaine. Tous ceux qui n'étaient pas blancs, noirs, on les mettait dans le même sac. Aujourd'hui, les fraternités littéraires se font sur des structures d'imaginaire, c'est-à-dire le rapport que l'on a au fait que le monde s'est globalisé, que nous recevons des influences en termes de diversité linguistique, religieuse, phénotypique, qu'il y a un très très fort pourcentage d'individuation, c'est-à-dire que les contacts, bien sûr, existent entre les cultures et les civilisations, mais la dynamique est faite par des individus qui vivent des expériences qui sont à l'échelle du monde. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour trouver mes frères en littérature, ça ne sera pas nécessairement ceux qui sont nés aux Antilles, qui ont la peau noire ou qui, etc. Ce sont ceux qui ont le même rapport à la question des langues, qui ont le même rapport à la question de la diversité du monde et qui ont le même rapport à cette nécessité que nous avons aujourd'hui d'envisager d'habiter le monde sur des modalités qui ne soient pas les modalités des marqueurs ancestraux de l'identité, c'est-à-dire ma peau, mon Dieu, mon territoire, ma langue, qui étaient traités comme des absolus. Aujourd'hui, un individu peut être entre plusieurs histoires, plusieurs langues, être métisse, enfin, c'est des réalités extrêmement complexes. Et la littérature, d'une certaine manière, la musique est déjà très largement avancée, le cinéma aussi, hein, bon, bien qu'il y ait encore quelques petits problèmes, mais la littérature découvre ce nouveau champ qui fait que l'artiste est seul, l'écrivain est seul, il ne représente pas une langue, une nation, un territoire, il représente une expérience au monde. Et ces fraternités sont données par la manière qu'on a d'envisager le rapport à la langue ou le rapport aux différentes géographies et surtout le rapport à la diversité. Diversité qui n'est plus répartie un peu de manière un peu cosmopolitique, mais qui entre dans des processus interrelationnels. Et cette diversité interrelationnelle, c'est quelque chose que nous avons beaucoup de mal à vivre. Toutes les sociétés sont multi-transculturelles. La France est multi, pas seulement multiculturelle, mais multi-transculturelle. C'est le trans qui est le plus.
Ben c'est-à-dire qu'on a la plus des absolus. La promesse d'étonnant voyageur paraît très très vaste.
Et du coup, si on suit votre raisonnement, par exemple, l'étiquette d'écrivain national que parfois on voit passer, alors un tel est l'écrivain national parce qu'il représenterait tel pays, ça, pour le coup, ça vous parle pas?
Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant longtemps, la littérature reflétait, je dirais, une profondeur. C'est-à-dire une réalité nationale, entre guillemets, c'est toujours une expérience collective au monde. Donc, il y a une histoire, il y a un terroir, il y a une vision du monde qui est précieuse pour toutes les humanités. Et c'est vrai qu'un grand écrivain ou un grand artiste ou un grand cinéaste reflète toujours une petite réalité, une réalité nationale, entre guillemets. Mais ce n'est pas ce qui est le plus déterminant. Par exemple, on ne peut pas dire que limiter Césaire à la Martinique ou aux Antilles, ce serait une folie. C'est vrai que Césaire reflète une certaine réalité martiniquaise, mais Césaire reflète une expérience absolument singulière dans la langue française et dans la totalité monde et dans son rapport à l'Afrique. Donc il faut considérer toujours ces deux éléments. Mais d'une manière générale, il y a une très très grande solitude de l'artiste aujourd'hui qui ne représente que son expérience propre.
Et pourtant, Patrick Chamoiseau est donc écrivain multitransculturel avec nous.
Je suis un créole américain.
Exactement. Et lors de ce festival étonnant voyageur qui a lieu à Saint-Malo du 19 au 21 mai, vous tiendrez aussi ce qu'on peut appeler une table ronde avec le thème de la fraternité. Et je signale cet ouvrage, Osons la fraternité, que vous co-dirigez avec Michel Lebris. C'est les écrivains aux côtés des migrants, toute une série de textes. Notamment, il y a Jean Rouault, Sylvie, Lydie Salvert, pardon, il y a Christiane Taubira, Lola Lafont, Jean-Marie Le Clézio.
Oui.
Et vous aurez l'occasion d'en parler lors de ce festival Étonnant Voyageurs. C'est aux éditions Philippe Ray, c'est ça?
Oui, oui, exactement. Philippe Ray est très sensible à ces questions-là.
Patrick Chamoiseau avec nous dans Par Jupiter jusqu'à 18h. Sur France Inter, il est 17h21. Patrick Chamoiseau, il est quelle heure à Fort-de-France ?
Il y a 6 heures de différence.
Donc il est 11h21.
Voilà.
À Fort-de-France.
On embrasse Manoukian, c'est les heures qu'il connaît.
Pardon ?
André Manoukian, il se réveille à 16 heures là en général.
Ah bon ?
On l'embrasse.
Vous connaissez beaucoup sa vie, on dirait.
Oh bah,
L'écrivain Patrick Chamoiseau est en notre compagnie avant de partir demain vers Saint-Malo pour le festival Étonnant Voyageurs. Et tout à l'heure, Clara Dupont-Monod, qu'on vient d'entendre, nous chroniquera votre dernier ouvrage, Patrick Chamoiseau, Conte des sages créoles, paru au Seuil. On va y revenir. Mais il y a également dans ce studio
Thomas Bideguin.
Oui,
Guillaume Meurice.
C'est vrai, je suis là aussi.
Et Juliette Arnaud.
Sans blague.
Et Patrick Chamoiseau, c'est le moment de l'information. Attention.
Qui saute pas n'est pas Macron. Qui saute pas n'est pas.
Le journal de presque 17h17.
J'ai sauté, oh mes frères, et je me suis fichu par terre.
Et on commence avec les titres.
Oui, et cette défaite de l'Olympique de Marseille en finale de Coupe d'Europe.
Oui, la tristesse du député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, à 600 000 buts près. C'était bon.
On parlera aussi de l'émission politique ce soir sur France 2, mais sans Benoît Hamon.
Et oui, la tristesse de Benoît Hamon, ça s'est joué à 8 millions de voix près.
Il y aura des brèves.
Et oui, la tristesse de Charline Van Loenacker, ça s'est joué à un ivre virgule près.
Et on commence avec la défaite de Marseille, 3-0 en finale de la Coupe d'Europe contre Madrid.
Ouais, pourtant Marseille avait un bon supporter en la personne de...
Ça faisait si longtemps. Alors un soir comme ça, tu te prépares, tu t'échauffes, tu mets ta tunique, tu communiques. Allez l'OM.
Benoît Hamon. Ah. Quand ça veut pas, ça veut pas.
La gagne ou on l'a pas.
C'est comme Francis Lalanne, hein. C'est les gens, ils portent la poisse. Il faut mieux jouer avec Philippe Croizon dans les buts qu'avec des supporters comme ça.
On passe à l'émission politique qui aura lieu ce soir.
Ah oui, moi j'adore cette émission, je vous le dis. Mon moment préféré, c'est le billet d'humour à la fin.
Ah bah j'adore. Non, parce que ça c'était moi l'année dernière, puis là j'y suis plus.
Non, mais si, là ils ont mis Laurent Wauquiez.
Ah oui, donc on va rigoler quand même.
Ah bah, y a des chances.
Très bien. Politique toujours, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer l'a annoncé, les visites scolaires dans les Apple Store sont désormais interdites.
Et c'est bien normal, les enfants n'ont rien à faire dans un Apple Store. Les enfants, c'est fait pour fabriquer ce qu'il y a dans l'Apple Store, je le rappelle.
Politique française encore.
Oui, sur France 24, on a des bonnes idées. Notamment, demander son avis à Gilbert Collard sur le conflit israélo-palestinien.
J'en ai beaucoup discuté avec des amis juifs, avec des amis de l'autre bord. Ouais. Parce qu'on a quelques-uns.
Voilà, on a tous, évidemment, des amis juifs et des amis... On les a aussi.
Sans transition possible, homophobie. C'est aujourd'hui la journée de lutte contre les discriminations homophobes et on note la hausse de ces actes en France en 2017.
À l'occasion de rappeler que l'homophobie, c'est vraiment un truc d'enculé.
Suite de l'attentat au couteau à Paris, des proches de l'auteur de l'attaque ont témoigné pour expliquer qu'ils voulaient faire médecin pour sauver des vies.
Bah là, c'est loupé, hein. On a envie de dire c'est loupé. On n'a jamais vu une opération qui foire autant. Même le docteur de la joue est dépassé.
Eurovision, Benjamin Netanyahou a fêté la victoire d'Israël en imitant la poule.
Il est bon en imitation, hein, Netanyahou. Par exemple, dès qu'on lui parle de la Cisjordanie, il fait l'autruche.
Il fait bien le vautour aussi.
Il fait bien le blaireau aussi. C'est une femme de la fontaine, en fait. Ouais, directement.
On passe à Melania Trump, qui a été hospitalisée pour une opération bénigne.
Oui, elle a demandé de se faire retirer une vilaine tumeur et les médecins lui ont dit que ce n'était pas une tumeur, c'était son mari.
Transition vocabulaire.
Oui, le petit Robert a dévoilé les nouveaux mots qui vont rentrer dans son prochain dictionnaire.
Le mot grossophobie va notamment entrer dans ce dictionnaire.
Oui, alors si on rajoute des mots dans le dico, il va être gros, il va être énorme.
Et alors?
Non, rien. Moi, je disais ça comme ça.
D'accord. Ouais. Ok, alors on enchaîne. Ouais. Automobile, la France va autoriser les tests sans conducteur dès 2019.
Un petit coup de volant pour l'homme, mais un grand coup de volant pour Samina Seri.
Culture, à présent, le tableau nu couché de Modigliani vendu aux enchères pour 157 millions de dollars.
157 millions de dollars pour voir quelqu'un couché nu. C'est là qu'on se rend compte que la sextape de Valbuena était vachement sous-cotée, en fait. Hein.
On termine avec une brève.
Oui, un fait divers, 1,7 kg de cocaïne retrouvé dans le ventre d'un homme sur l'autoroute A1.
Ah, faut vraiment que Vizorek arrête d'aller bouffer avec Ardisson.
Ouais, c'est urgent.
Merci Guillaume Meurice.
Vous en avez à votre service.
Et c'est Juliette Arnaud qui remplace Vizorek aujourd'hui. Et en compagnie de Patrick Chamoiseau, nous allons aborder ce premier sujet, ainsi que Clara Dupont-Monod et Thomas Bidguin. C'est la contestation du système qui prend, semble-t-il, un tour radical. Les groupes qui manifestent par l'occupation, le blocage ou parfois la casse sont qualifiés d'ultra. Il y a l'ultra-gauche ou ce qu'on dit l'ultra-droite. Et au milieu de cette résurgence de radicalité, y compris dans le langage politique, il y a toujours un centre. Et qui sait, il existe peut-être même des ultra-modérés, comme ceci.
Max, il y a Nico qui voulait vous dire un truc.
Non, c'est surtout Henri.
Vas-y Henri, mais je t'écoute, mais vite. Ouais.
Bonjour Max, non.
Bonjour.
Vas-y. Juste, comment? Là, on a un petit peu envisagé, tu vois, pas concerté, mais...
De discuter.
Et on est un peu d'accord, en fait.
D'accord.
Par rapport à la façon, tu vois, dont on allait te ramener un peu à...
Ah, vas-y Henri, vas-y.
Oui, mais attends. Autant... Pour l'essentiel, vraiment, tout va très bien. Et...
Oui, oui, mais... Bien sûr. mais... Donc, rien, en fait.
Non, rien.
Antoine Chappé, Jean-Pierre Bacri, dans le sens de la fête. Ouais, de Olivier Nakache et Eric Toledano. C'est la une de l'Obs parue ce matin sur ces nouvelles radicalités. Alors, elles ont toujours existé, mais il y a une forme de résurgence, d'occupation, de blocage, parfois de casse, etc., avec les ultras d'un côté et de l'autre. Est-ce que vous faites ce constat aussi de regain de radicalité, notamment en Martinique, là où vous vivez, Patrick Chamoiseau, et en tant qu'observateur observateur de la vie citoyenne.
Je pense que ce phénomène est un phénomène mondial, dans la mesure où on n'a plus de solitude aujourd'hui, ni géographique, ni culturelle, ni psychique, etc. Nous vivons véritablement dans des flux relationnels. Ce qui fait que ce qui se produit en France, c'est pratiquement ce qui se produit dans la plupart des pays du monde. Alors qu'est-ce qui se produit ? C'est vrai que la forme néolibérale a été la seule à pouvoir chevaucher le processus d'individuation. C'est-à-dire que la mise en relation des cultures, des civilisations a fait exploser les carcans symboliques habituels qui maintenaient les individus à très basse intensité. C'est-à-dire qu'il était très très difficile d'exprimer toutes ses potentialités personnelles quand on était dans une tribu de Sioux, une tribu de ci, une tribu de cela. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, néolibéral, effectivement, l'individuation a pris une importance incroyable. Alors, il y a deux phénomènes qui se produisent à cause du néolibéralisme. Il y a d'abord l'élimination de toutes les formes de médiation. On voit bien comment les partis ont explosé parce qu'on a un effondrement des idéologies massives, des pensées de système ou des systèmes de pensée qui régulaient d'une certaine manière les grandes masses et permettaient une sorte de cohérence. Tout ça s'est effondré. Donc là, il y a le premier élément. Et l'autre élément, c'est que le néolibéralisme a véritablement transformé le processus d'individuation en individualisme consommateur. Ce qui fait qu'il y a une sorte de rétrécissement de l'imaginaire de chacun et on est dans des difficultés extrêmes. Il y a une perversion d'un processus qui est un processus libérateur né de la philosophie libérale et aussi né de mai 68. Tout ça s'est racorni dans des processus qui sont des processus consuméristes.
Mais tout ça provoque une colère et donc une radicalité, c'est ça que vous
voulez
dire ?
Alors, quand on a plus d'instances de médiation et quand on a un affaissement de l'imaginaire, c'est-à-dire l'extension de l'esprit, les assises de l'esprit qui étaient organisées autour de différents systèmes, notamment des systèmes culturels, des systèmes symboliques. Tout ça, aujourd'hui, repose sur des principes économiques. C'est-à-dire, le néolibéralisme a dépolitisé, d'une certaine manière, tous les éléments de la vie pour en faire des questions économiques. Tout est économique. Il n'y a pas une seule question, que ce soit dans la littérature ou je ne sais où, et même dans votre émission, c'est l'audience qui va déterminer ce que ça rapporte, etc. Donc, la formulation économique est un appauvrissement qui transforme les individuations en individualisme et crée cette équation absolument incroyable des extrémismes. Parce que quand la pensée a perdu ses assises, elle est devenue purement économique, à ce moment-là, on se donne le sentiment de penser avec des radicalités qui remplacent la complexité, en tout cas qui nous évitent de nous poser trop de questions et qui nous donnent l'illusion d'agir et de penser.
Vous vous considérez comme un radical, vous, parce que vous...
Oui, j'ai une radicalité poétique.
Ah.
C'est-à-dire que il y a deux éléments. Le néolibéralisme, par sa dimension consumériste, par sa dépolitisation et par la perversion de l'individuation en individualisme, a favorisé toutes les dimensions prosaïques. La survie, mon pouvoir d'achat, ma sécurité, etc. Donc on voit bien comment les réponses qui sont données, en dehors de l'économique, les réponses qui sont données sont des réponses sécuritaires ou des réponses qui favorisent la consommation. Et là, on a une difficulté parce que toute la partie de ce qui fait un être humain, le poétique, l'amour, l'amitié, la rencontre, la musique, le rire, cette joie de vivre que vous exprimez, cet esprit critique, cette espèce d'effervescence et de sensibilité qui fait l'humain, tout ça a été réduit. Et il me semble que si on revient à cette dimension poétique, on se ressource immédiatement à ce que l'humain a de plus humain. Donc il y a une radicalité, non seulement à avoir une posture artistique ou esthétique, mais il y a une radicalité à être poétique.
Et on réinsufflera de la poésie en parlant aussi de vos contes des sages créoles tout à l'heure avec Clara Dupont-Monod, paru au Seuil. Et pour l'instant, la parole est à... Vous êtes poète, Thomas Videguin ?
Mais incroyable.
Au-delà de poète. Insufflons, allez, c'est parti.
Oh, j'attends ce que vous dites. Alors, oui, qu'est-ce que vous voulez ? Ben, c'est à moi. Une fois de plus, c'est comme ça. Et une fois de plus, je viens parler de storytelling, comme je le fais depuis 2 ans. 2 ans. Eh oui, tout le monde ne peut pas bénéficier d'un aménagement de peine. Alors, je viens vous parler de toutes ces petites ZAD d'histoire qui résistent sous les coups de matraque de la réalité et qui forment au fil du temps le grand récit des zones humides et la mémoire de nos aéroports fantômes. Le storytelling. Wow. Voilà. Oui. Alors, je voulais d'abord vous dire que la semaine dernière, c'était l'anniversaire de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Bon, ça n'a aucun rapport avec ma chronique, mais j'avais juste envie de partager un peu de ces informations personnelles. C'est tout. Voilà, ça c'est fait. Et donc le thème du jour, c'est le public. C'est très important, le public, dans le monde du storytelling, où l'on est en général prêt à toutes les bassesses imaginables pour s'accorder ses faveurs. Quand il s'agit de plaire au public, tout va. On est prêt à tout. On est prêt à envoyer les membres du gouvernement dans des villes de deuxième zone où les avions n'atterrissent plus, sauf en catastrophe, et où même Alex Vizorek hésiterait à se produire. On est prêt à vendre à prix imbattable des milliers de billets de train, histoire que toutes les bourses puissent dignement se rendre et pour aller dire adieu à ces jolies petites gares qui ne résisteront pas aux rumeurs de la privatisation. On est prêt à jouer à touche-touche devant les caméras avec le président des États-Unis pour le public. D'ailleurs, depuis, on n'entend plus... vraiment Emmanuel Macron. Non, ouais, parce qu'après qu'il les ait vus se faire la bise, je crois que par habitude, l'avocat de Donald Trump lui aurait donné 130 000 dollars pour qu'il garde le silence. C'est la force. L'habitude est une deuxième nature. Enfin voilà, le seul endroit qui contrevient à la règle, la seule poche de résistance à l'implacable dictature du public, le lieu où l'on n'en a vraiment rien à foutre pendant 10 jours chaque année au printemps, c'est... Vous l'avez deviné, le festival de Cannes.
Ah, mais oui.
Eh oui. Ah, bien sûr. Parce qu'à Cannes, on n'est pas dérangé par la tiédeur de la démocratie. Non, Cannes, où l'aristocratie du cinéma choisit les films qui seront jugés par son élite. Cannes, où l'on n'est pas dérangé par tous ces films que personne n'aime, à part le public. Et oui, parce que quand le public s'exprime, pour qui est-ce qu'il vote ? Eh ben, pour Taxi 5 ou pour Emmanuel Macron. Ils votent pour les Tuches ou pour Danny Boom. D'ailleurs, comme en Italie, d'ailleurs, où les deux sont en train de s'entendre pour former un gouvernement.
Et donc, c'est vrai.
Voilà, les Tuches et Danny Boom. Le festival de Cannes, dont le carré VIP, nous livrera dans quelques jours son imprononçable palmarès. Et c'est un des derniers bastions où la vie du public n'a aucune importance. Alors bien sûr, on ira voir les films, et bien entendu ce seront des chefs-d'œuvre, mais on se comptera, on sera entre nous, un peu comme au comité de soutien 2022 pour Taubira, présidente. Mais est-ce qu'il existe un autre endroit où une élite choisie par une élite décide en vase clos et dans le plus grand secret de ce qui est bien ou pas ? Oui, ça existe et ça s'appelle la Commission européenne. Mais c'est également le cas des auditions du CSA pour la présidence de Radio France, dont vous avez été odieusement écarté au mépris de la ferveur populaire. Mais nous ne reviendrons pas sur ces tristes événements. Nous ne voulons pas provoquer une guerre, Sybille.
Wow.
Oh, c'était un tout, voilà, il fallait le faire. Oui, quelqu'un devait le faire. Et oui, le cinéma a 120 ans. Bon anniversaire, Gilles Jacob. Le festival en a 71 et gageons qu'il continuera de tourner à l'envers du monde et d'exposer ses représentations les plus obscures en se gourant parfois, souvent à tâtons, mais en conspirant toujours contre la médiocrité. Parce que le cinéma, et c'est son avantage sur la pâte dentifrice et les hommes politiques, ce n'est pas fait pour plaire au plus grand monde. C'est déjà pas mal quand ça plaît énormément à quelques-uns.
Oh, Thomas Bideguin. Là, on a un niveau, mais on peut laisser un petit silence derrière. Et c'est encore du Bideguin. 17h36 sur France Inter. Merci beaucoup, Thomas. Nous sommes en compagnie de Patrick Chamoiseau, qui part pour le festival Étonnant Voyageur qui commence le 19. C'est après-midi.
Il part en train.
Ouais.
On ne sait pas s'il arrivera.
Pagallo chante l'offrande sur France Inter. Patrick Chamoiseau est avec nous.
Merci.
Et avant de revenir à votre dernier ouvrage, Les Contes des Sages Créoles avec Clara Dupont-Monod, il faut d'abord en passer par Guillaume Meurice.
Je suis désolé, c'est comme ça, c'est contractuel. Ouais. Mais je vais vous parler fraternité aujourd'hui, ça tombe bien. Parce que hier, c'était la journée du vivre ensemble. Et puis aujourd'hui, voilà, on reçoit Patrick Chamoiseau qui publie Osons la fraternité. Et nous, c'est vrai qu'on pratique tous les jours la fraternité au sein de notre équipe. Il y a une belle solidarité. Quand Charline, par exemple, nous dit en cachette, vous trouvez pas quand même que les chroniques de Clara, elles ont vachement baissé en qualité ces derniers temps? Bah moi je vous défends, Clara, tout le temps. Voilà, je dis bah oui, mais à l'âge qu'elle a, bah c'est déjà bien qu'elle soit toujours là, de ce monde. Ouais. Puis ça l'occupe. Pendant ce temps-là, elle est pas en train de se déguiser en duchesse du Moyen Âge dans les fêtes sordides. Voilà. Donc on est, voilà, il y a une vraie solidarité. Je trouve toujours le positif. On est là les uns pour les autres, quel que soit, j'insiste là-dessus, quelle que soit la hiérarchie. Ce matin, je vois, on a fait allégeance à notre nouveau numéro 2, Guy Lagache. Hein, voilà. Et ben on était avec lui. On était. Alors pardon, oui, on a fait allégeance au nouveau numéro 2, Guy Lagache. Pardon, excusez-moi, je vais prendre ce ton-là quand on parle de lui. Mais je veux dire, il y a une belle fraternité, mais la fraternité en acte, ça donne quoi à l'échelle nationale? C'est ça qui m'a intéressé ce matin. Alors, je suis descendu dans la rue à la rencontre des Français et des Françaises, et comme d'hab, ben, j'ai pas été déçu.
On vient de Versailles. Et à part vous, c'est la première fois que j'entends parler français depuis qu'on a démarré de Versailles.
Ah, c'est vrai?
Eh ben oui, ben, dans le train, on parlait arabe, chinois, enfin bon, tout le truc, quoi, bon.
Est-ce que c'est pas ça finalement la fraternité
oui,
entre les
ça.
Humains?
C'est ça la fraternité. Non, mais je trouve qu'on est anti-blanc, je suis désolée.
Ah mais ne soyez pas désolée, hein, c'est vrai que la fraternité ça va dans les deux sens à un moment donné. Moi je vois depuis tout à l'heure, je suis agressée par notre invité qui me nargue avec son bronzage. Moi j'attends deux semaines à la Réunion, j'ai passé s'il te plaît. Je suis bronzée comme le périlé de Brice-Hortefeux en plein hiver. Et là il est là à me narguer depuis le début. Vous êtes anti-blanc, c'est dégueulasse. Je suis à deux doigts d'appeler sur les racismes, de lancer un hashtag stop la compagnie créole. J'en ai marre de bol. Alors que bon, j'insiste là-dessus, la dame n'est pas raciste du tout, et vous savez pourquoi?
J'ai un ami qui est arabe, et j'ai ma petite fille qui est mariée avec un chinois.
Donc vous n'êtes pas raciste?
Ça vous dit quelque chose? Ah, de ce côté-là, je suis pas raciste, je suis contre les cons.
Ah oui, alors attention, attention à ça, parce qu'évidemment c'est toujours relatif, on est tous le con de quelqu'un, et ainsi de suite, jusqu'à Christophe Castaner, évidemment. C'est comme la fraternité, il faut bien définir le concept, mais on est là pour ça. Alors, si on est aussi peu fraternel, il y a peut-être une raison.
C'est normal qu'on se tape dessus pour s'exercer, d'abord. Comme ça, on s'exerce... Les peuples qui n'ont pas l'agressivité disparaissent. Donc c'est important. Et tandis que les fratries qui se tabassent, elles gagnent.
Donc l'apprentissage de la fraternité, c'est de se foutre sur la gueule.
Oui.
Oui, alors ça c'est intéressant comme théorie. Plus on se foutra sur la gueule, plus on renforcera le vivre ensemble.
Ça me rappelle mon premier mariage.
Exactement. Vous avez déjà testé ça. Et d'ailleurs, je vous le dis, si vous nous écoutez, par exemple, vous êtes en bagnole, bah, ouvrez grand la fenêtre, puis vous dites, tu as la poussée ta merde, espèce de raclure de chiottes. Regarde ta tronche, on dirait le foie de Juliette Arnaud après 23 heures. Voilà, donc la personne devant vous viendra vous mettre une bonne tarte dans la gueule et ensemble, on sera plus fort. Ça, c'est important. Alors, ce monsieur, il est pour le tabassage, mais aussi pour les inégalités. Ça, c'est important aussi. Qui soude l'humanité. Qu'est-ce qu'il pense des écarts entre les très riches et les très pauvres?
C'est pas grave.
Ah, c'est pas grave pour les très riches.
Le permis de ruissellement, ça marche très bien. Même si Macron dit qu'il est pas pour, en fait, il est pour sans le dire. S'il n'y avait pas d'inégalité des très riches et des très pauvres, tout le monde serait pauvre et on serait à l'âge de pierre.
Mais si ça marchait très bien, il n'y aurait plus de très pauvres puisque ça ruissellerait.
Il n'y a pas de très pauvres.
Ah, il n'y a pas de très pauvres?
Nous plaisantez.
Ah, non, mais je suis peut-être un petit peu con. Non, mais c'est pas parce qu'il y en a, quand on nous dit qu'il y en a qui n'ont pas à bouffer, moi, je me méfie pas, j'y crois. J'avais oublié que les Restos du Cœur, c'était pour ceux qui avaient la flemme d'aller au Coste. Je vous dis, hein, je suis con. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on ne peut même pas parler de pauvreté.
L'histoire de l'humanité, on a éliminé la pauvreté progressivement.
Mais il y a quand même des gens qui meurent dans la rue, par exemple, à Paris, tous les ans.
Ah, ailleurs. Non, je veux dire, on pourrait très bien leur donner un boulot et faire deux classes sociales, les Français et les pas Français. On cherche toujours de la manœuvre. Les Allemands, ils faisaient le STO, service du travail obligatoire. C'était une façon pour eux, c'est mieux d'avoir des immigrés, c'est pour ça qu'ils prennent des immigrés, que d'avoir des prisonniers.
Le modèle, c'est l'Allemagne nazie?
Non, ce que j'ai dit, c'est qu'ils ont résolu leur problème de manœuvre par le STO.
Ça, est-ce que c'est très fraternel?
Oui.
Oui, bah c'est la grande fraternité du Troisième Reich, hein, ça on connaît bien. Alors il y avait quelques défauts, c'est jamais parfait un système politique, mais là ça marchait. Il y avait voilà une grande fraternité. Si un antisémite tombait, bah, il y avait toujours un SS pour l'aider à se relever, et ça c'était beau. Et ce fameux STO, bah, ça marchait du tonnerre, hein, service du travail obligatoire, quelle bonne idée. Bon, il y avait qu'un seul conseiller Pôle emploi, il s'appelait Philippe Pétain, mais il te trouvait du boulot. Hein. Il disait bah, j'ai un poste en Allemagne, hop, et puis il y allait, puis ça marchait bien. C'est comme ça qu'on crée une société. Alors il y a, comme il y a toujours des esprits chagrins là sur cette antenne de bobos gauchias politiquement politiquement correct qui saoule Elisabeth Lévy plus vite qu'un Jack Daniels. J'ai aussi rencontré des gens qui sont dans une forme de fraternité, je dirais, plus mignonne, qui aident les gens.
Bon, il y en a qui essayent de faire des choses, d'aider les autres. Moi, c'est un peu ce que je fais, mais...
C'est vrai, quand on voit ce qui se passe avec les réfugiés,
oui,
on se dit, il n'y a pas
tellement... Alors ça, les réfugiés, c'est encore autre chose.
Ah.
C'est très difficile d'être fraternel aussi avec des réfugiés. On n'a pas la même culture.
Vous pensez qu'on ne peut pas être fraternel si on n'a pas la même culture ?
Ça dépend. Comment sont les autres aussi ? Et s'ils veulent bien accepter votre fraternité ?
Mais vous pensez qu'ils n'acceptent pas notre fraternité ?
Intrinsèquement, pas forcément.
Ah ! Ah ben, je vais vous dire, j'en ai entendu des théories depuis que j'interroge les gens, mais celle qui consiste à dire que intrinsèquement les réfugiés refusent notre fraternité, je la connaissais pas. On me l'avait jamais faite, mais je garde. Peut-être que c'est ça qui se passe quand on bâtit une société sur la compétition et la peur. Peut-être que pour gouverner, il faut plus que des slogans.
Guillaume Meurice, merci. Patrick Chamoiseau, il y a du boulot.
Oui, il y a du boulot.
Vous l'entendez que, voilà. Et heureusement, vous publiez, car vous co-dirigez cet ouvrage, Osons la fraternité, les écrivains aux côtés des migrants, paru chez Philippe Ray Éditions, car l'écriture peut changer le monde. Et il y a toute une série d'auteurs qui écrivent dans ce livre. Il y a Tahar Benjelloun, il y a Patrick Boucheron, Patrick Chamoiseau, vous écrivez un texte. Il y a Lola Lafont, il y a Le Clésio, ou Achille Membe dans cet ouvrage. On va aborder ce deuxième sujet avec vous, Patrick Chamoiseau. Ce sont les actrices noires qui lancent un mouvement à travers un livre manifeste aussi intitulé « Noir n'est pas mon métier ». Elles ont monté les marches de Cannes hier soir, le point levé, pour ne pas être cantonnées au rôle subalterne au cinéma et au racisme latent, disent-elles, de ce cinéma français. Cinéma reflet de la société, écoutez.
Bonjour monsieur.
Attendez, il y a quelqu'un qui parle français dans cet hôpital ?
Quel est le problème ?
Bah, le problème, c'est que ça fait une heure que je demande un médecin.
Je suis médecin, monsieur.
Bah, écoutez, monsieur, c'est pas compliqué, hein. Vous allez pas me ramener tous les employés de cet hôpital, non ? Je veux voir un médecin. Et mais je ne bougerai pas d'ici tant que ma mère n'aurait pas été vue par un médecin. C'est clair ?
Calmez-vous, monsieur.
Non, je me calme pas ! J'en ai marre ! Allez, bouge, cousin.
Tu as la jambe, ta putain de gueule ! Je suis médecin, je te dis ! Qu'est-ce qu'il a ? Vous avez jamais vu un médecin noir ? Mais regardez-moi bien ! C'est fait ! Je suis médecin interne et noir ! Ça dérange quelqu'un ? Parce que si ça vous dérange, je vous emmerde toutes.
Omar Sy dans Tellement proche. Autre film de Nakache et Toledano. Décidément, c'est leur fête aujourd'hui.
Et le bruitage qu'on entendait, c'était un coup de boule. Bien placé entre les deux yeux.
Noir n'est pas mon métier, notamment instigé par Aïssa Maïga ou Sonia Roland ou Firmin Richard.
Oui, alors quand on entend le récit de ces comédiennes, de ce qu'elles se sont entendues dire depuis qu'elles pratiquent ce métier, ça dit quoi sur l'héritage en 2018 du passé colonialiste de la France,
voire du passé esclavagiste.
Oui, également.
C'est-à-dire qu'on a eu un processus de décolonisation qui s'est un peu achevé après les années 60. Donc on a d'une certaine manière, entre guillemets, décolonisé les colonisés, mais on n'a pas décolonisé les colonisateurs. Ce qui fait qu'il y a la persistance d'un esprit colonial qui se trouve actif dans les différentes procédures de domination économique et autres, mais qui est aussi actif dans les représentations. Ce qui fait qu'on peut dire que l'imaginaire artistique cinématographique en France est assez faible en ce qui concerne les questions multitransculturelles. En tout cas, la nouvelle complexité qui fait qu'un être humain, aucune réalité sociétale puisse être transportée de différentes couleurs, etc. etc.
Le cinéma français est néocolonial parce que la société l'est toujours ?
D'une certaine manière, quand je vois ce que Hollywood a pu faire en termes d'exploration de toutes les problématiques américaines, on est encore loin de la réalité. Aujourd'hui, vous avez en France une constitution qui se dit une et indivisible, et puis une réalité qu'on appelle l'outre-mer. Ce sont des pays, ce sont des nations, ce sont des histoires, ce sont des berceaux géographiques qui sont englobés dans une appellation ultramarine qui est absolument horrible et qui nie cette réalité extraordinaire.
C'est des ultras encore.
L'autre élément, c'est que la France, par son empire colonial, a rencontré la diversité du monde. Le monde habite la France. La diversité, la France est faite de diversité. Et être français aujourd'hui, c'est une réalité qui est absolument, qui reflète une réalité mondiale que le cinéma français, en tout cas que l'imaginaire des scénaristes et des
réalisateurs
n'a pas encore suffisamment absorbé.
On n'a pas notre Spike Lee ? On a un Spike Lee français ?
Non,
je ne crois pas. Non, mais on cherche encore. Mais c'est vrai que quand on écrit les scénarios, on essaye de faire des scénarios qui représente la France, ou en tout cas qui, effectivement, je vois, parce qu'on a essayé, je sais pas quoi, Un prophète, c'était vraiment le but du truc, c'était dire de faire le film d'après, c'est-à-dire de pas faire un film sur l'intégration, de pas prendre des gens qui viennent d'ailleurs pour raconter un processus d'intégration, mais de raconter des gens qui sont déjà là et qui peuvent devenir des héros de fiction en étant ici. Et c'était vraiment le
et heureusement, Patrick Chamoiseau est aussi scénariste de films. Et c'est comme ça qu'on avance. Clara Dupont-Monod, on va revenir aussi à la littérature et au conte des sages créoles de notre invité Patrick Chamoiseau.
Oui, c'est notre actualité, Charline. Ouais. Ce sont les livres de Patrick Chamoiseau. Mais parmi eux, il y en a un que j'aime particulièrement, que vous avez cité tout à l'heure, qui est sorti en mars et qui s'appelle « Conte des sages créoles ». Alors, les auditeurs qui nous écoutent sans nous regarder, il faut qu'on leur dise quand même que c'est un petit livre très mince, très délicat.
Avec très bel objet.
Voilà, avec un marque-page en tissu, avec des tableaux de Paul Gauguin. C'est un petit objet d'art et je le comparerais volontiers à ces rouges à lèvres haute couture. Vous savez qu'on les en sort aussi bien pour utiliser que pour exhiber. Voilà, toutes les femmes élégantes me comprendront.
Et il tient dans le sac à main.
Hein, il tient dans le sac à main avec le rouge à lèvres haute couture et ça n'est pas du tout insulte que de le comparer à ça. Encore une fois, les femmes délicates me comprendront. Alors, Patrick Chamoiseau, vous avez collecté les légendes qui ont irrigué la période esclavagiste coloniale, en gros du XVIIe au XIXe siècle, époque fondamentale de l'histoire des Antilles, écrivez-vous. Ces histoires étaient narrées par un conteur qui, dans la journée, était comme les autres, il avait le dos courbé dans les plantations, mais qui, le soir, s'auréolait d'un pouvoir ensorcelant, celui des mots. Donc il faut imaginer que le soir, à la nuit tombée même, on se regroupe autour du conteur, sous un vieil arbre planté dans le quartier aux esclaves, on ouvre ses oreilles parce que, le temps d'une histoire, on va échapper à la canne à sucre et à la misère. Et d'ailleurs, comme par hasard, ces contes parlent de la faim. Le thème de la faim cimente l'imaginaire créole de ces années-là. Vous dites d'ailleurs pas la faim, vous dites le manger. Et il y a même un conte prénommé Yé, le maître de la famine. Le personnage Yé, je cite, rôdaillait partout, cherchant le goût à prendre, le coup de dent à donner. C'est pourquoi ces contes, en tout cas je les ai lus comme ça, sont d'abord des contes de survie. Ça veut dire une chose très précise, ça veut dire que les héros sont seuls. Parmi les personnages, il y a très peu de solidarité, il y a assez peu d'esprit de groupe, il n'y a pas tellement d'idéologie, encore moins de sens moral. Le personnage pense à lui, il est pragmatique, et pour les grands discours d'émancipation collective, on attendra d'avoir assez mangé, donc c'est pas demain. Donc pour le dire autrement, le conte créole penche davantage vers le libéralisme que vers la gauche rouge foncé, mais c'est une littérature de péril, beaucoup plus que d'espoir. Ce qui explique que dans ces contes, une mère se débarrasse de sa fille assez facilement, sans trop de scrupules, on arnaque une vieille dame, sans tellement de conscience morale, ou alors on laisse un pauvre petit handicapé difforme mariner devant la case, et tout le monde s'en fout, personne ne s'occupe de lui. Alors, Dieu merci, et je ne vous l'apprends pas, mes amis, le libéralisme a des vertus. Alors, Guillaume Meurice, oui, ne faites pas le dégoûté. Allez compter vos euros que vous prétendez si sales. Mais parmi ces vertus, il y a notamment le fait que le plus faible peut renverser le plus fort. Parce qu'en fait, puisqu'il n'y a pas de code moral en milieu de survie, eh ben, autant y aller. Je vous cite, la misère force à la ruse et à l'intelligence. Et c'est comme ça qu'on voit un jeune esclave qui assassine son maître, un autre qui truande les gens avec beaucoup de panache, ou alors le petit handicapé, dont je vous parlais tout à l'heure, qui finalement devient justicier, sanguinaire et assez straight, on va dire. Alors, le tout raconté avec une truculence, Patrick Chamoiseau, je m'incline, mais chez vous, les silences enveloppent comme des moustiquaires, battement de cœur, la pointe d'un piton rocheux perce le nombril des nuages, rebattement de cœur, et les maisons sont hautes, je cite, comme un arbre de 100 ans, avec 10 000 fenêtres et 36 paratonnerres, beauté de l'outrance, magie de l'excès, on en redemande. Le tout nappé de ces exquises apostrophes au lecteur, spécifiques à la littérature orale, comme au Moyen-Âge, puisque le conteur s'adresse à un public, et je vous cite juste un début en guise de conclusion, de vous, Patrick Chamoiseau, j'ai vu passer ce conte aux abords de ma case, à la quatrième heure d'une nuit ensoleillée, où un grand rêve m'avait offert de petites insomnies. Voilà, la référence de tout le plateau. Monsieur Chamoiseau, je vous donne les références. Conte des sages créoles est paru au Seuil.
Merci Clara Dupont-Monod. Ça donne très 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 envie pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Patrick Chamoiseau avec nous, Juliette Arnaud, Thomas Bidguin et Guillaume Meurice. Et on va parler du diktat de l'orthographe. grave, c'est le thème cette semaine de l'hebdo, le 1, car le ministère de l'Éducation nationale préconise la pratique quotidienne de la dictée, exercice pourtant considéré comme castrateur parfois, notamment à cause de son système de notation qui peut plonger en dessous de zéro. Surtout quand on vous y pousse, n'est-ce pas ?
La chaussée fleurie. Par une belle après-midi, virgule, ensoleillée, virgule, Joachim se promenait à bicyclette. Se promenait à bicyclette. Mais en un mot, point. Il prit alors le temps d'admirer les buissons adjacentes. Les buissons adjacentes.
Faux contact, c'est un programme court de la RTBF avec le comédien Manu Taureau. Le 1 parle de la dictée sous toutes ses coutures. Est-ce que c'est un exercice formateur ou parfois castrateur, un jeu, un engouement incroyable en France, une base? Comment vous voyez la dictée, vous, Patrick Chamoiseau?
Moi, pour ce que j'ai connu, j'ai beaucoup aimé les dictées. C'est-à-dire que
à l'époque... Parce que vous étiez bon. Pardon.
Oui, j'étais bon. Pourquoi j'étais bon? Parce que je lisais. Je lisais énormément et je pense que là, oui. Le rapport aux mots et à l'orthographe passe par la lecture, pas par des exercices orthopédiques de grammaire. Mais c'était aussi l'époque où la langue était présentée comme un absolu. Un absolu, c'est-à-dire on avait les académies, on avait vraiment un académisme formel qui donnait une très très grande priorité à l'orthographe.
Mais c'est on chassait la créolité alors dans les dictées
c'était interdit. C'est-à-dire que problème que j'avais quand j'étais à l'école, c'est que j'étais créolophone, donc je parlais créole dans ma tête, je pensais en créole, et le créole était interdit à l'école. Ah donc, ce qui fait que ce langage bizarre que l'on trouve dans les contes créoles provient de ce choc terrible entre un absolu dominateur et un autre absolu dominé, c'est-à-dire langue créole et langue française. Et là, il a fallu s'en sortir en disant, mais pourquoi choisir entre les deux langues? Sortons de l'orgueil linguistique et bâtissons un langage avec toutes les possibilités langagières qui me sont données. Ce qui fait que mon écriture aujourd'hui, non seulement mélange le créole et le français, mais d'une certaine manière sort de la verticalité orgueilleuse des langues pour avoir le désir imaginant de toutes les langues du monde. Alors là, la dictée n'a plus tellement d'importance. C'est vrai que je suis quand même assez troublé quand je vois des fautes d'orthographe, mais ça, c'est ma vieille...
Et donc, pour éviter le diktat, la lecture est la voie royale pour la bonne orthographe. Patrick Chamoiseau, je suis certaine qu'il y a un comédien qui sommeille en vous aussi, et Guillaume Meurice.
On va vérifier ça, c'est la tradition, c'est le sketch de fin d'émission. On soumet à l'invité qui découvre le texte un rôle. Et alors, gros casting aujourd'hui, parce que c'est ce soir l'émission politique. Donc, on vous a choisi le rôle de Laurent Wauquiez. On s'est dit que ça vous irait bien. Charline fera Marine Le Pen, Thomas Videguin, Olivier Faure, Clara Dupont-Monod, évidemment Jean-Luc Mélenchon. Quant à moi-même, je ferai Christophe Castaner. C'est parti.
Bon, il est où Macron? Je vais me le faire.
Il n'est pas là ce soir, c'est moi qui représente La République En Marche.
Ah bon? Mais t'es qui?
Christophe Castaner, vous connaissez sans doute mon tube. Qui ne saute pas n'est pas Macron.
J'avais entendu parler. Bon, allez, pousse-toi Castagnette, je vais aller bosser dans ma loge. Là.
Toujours aussi charmante.
Ouais. Ils sont dans les campagnes.
Bon, elle est où Nathalie de Saint-Cric? Je vais me la faire.
Ah, Jean-Luc, comment vas-tu?
T'es qui toi, juste?
Olivier Faure.
Qui?
Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste.
Ah oui, le nécromancien, qu'est-ce que tu veux?
Ils sont sur les réseaux sociaux, gna 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 gna.
Oh putain, elle m'a fait peur, c'est Poltergeist cette émission.
Alors, Jean-Luc, pour faire un pas vers la réconciliation de la gauche, je voudrais t'offrir cette bouteille de rhum.
Alors, tu vas encore me parler du Venezuela?
Non.
Retourne lécher les bottes de la CIA nazi.
Bon, d'accord.
Excusez-moi, c'est bien ici l'émission politique?
Monsieur Wauquiez, oui, c'est ici.
Ouais, je suis bien embêté, j'ai relu mes notes et j'ai l'impression qu'on est d'accord sur beaucoup de choses, enfin, sauf avec Jean-Luc.
Ah, par exemple, alors vous pensez quoi de l'accueil des migrants?
Contre! Qui saute pas n'est pas expulsé!
Marine, je te pose la question.
Contre! Comme Jupiter qui pique toutes nos idées!
Et Jean-Luc?
Ah, moi je suis carrément pour la remigration.
Bah, mais lui, je t'avais rétacuti.
Ah, bah, attention. Uniquement la remigration de Manuel Valls en Catalogne.
Bon. Ensuite, sur la réforme de la SNCF, vous vous positionnez comment?
Pour, bien sûr. Qui saute pas n'est pas pépi.
Et toi, Marine?
Bah, nous, on est pour, mais on soutient quand même les cheminots.
Toujours adepte du grand écart. Et toi, Fort?
Alors, bon, officiellement, on est contre, mais à vrai dire, ça nous arrange que Macron s'en occupe. Voilà.
Ouais, il n'y a que Jean-Luc qui soit contre, en fait.
Quoi, ça te dérange?
Ne sois pas agressif tout le temps.
Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Tu travailles pour les fascistes de l'OTAN, c'est ça?
Non.
C'est pas ce que dit Vladimir. T'as trouvé ça comment, Moscou? Parce que moi, bof.
Bon, j'espère qu'elle démarre bientôt, cette émission. C'est là.
Ah, c'est vrai, ça? Oui, il est où le coiffeur? Faut que je me refasse ma couleur.
Alors, tu t'as vraiment les cheveux en poivre et sel? C'est pas un peu ridicule, non?
Pas du tout, c'est une nécessité.
Comment ça?
Les Français ne sont pas encore prêts à élire un président roux.
Patrick Chamoiseau était Laurent Wauquiez. Merci Patrick Chamoiseau. On vous laisse prendre la route vers Saint-Malo. Merci. Pour ce magnifique festival étonnant voyageur qui se tient du 19 au 21 mai. Et je rappelle Osons la fraternité, ouvrage que vous co-dirigez avec les écrivains aux côtés des migrants, paru chez Philippe Ray, et les contes des sages créoles, paru au Seuil. Merci beaucoup. Laissons la conclusion de cette émission à Christophe Castaner.
Qui saute pas n'est pas Macron.